Radio Kapi. Oh, Kapi.
Merci d'écouter Radio Kapi, il est 18h à Kinshasa, voici un nouveau journal. C'est aujourd'hui la journée du combat de Simo Kimbangu et de la conscience africaine. Pour marquer l'événement, les kimbanguistes de la ville de Kindu au Maniema ont organisé une caravane sur les principales artères de la ville. Au Nord Kivu, une dizaine de cas de diarrhée sont signalés depuis 2 semaines dans les 2 aires de santé d'Entoto et de Langira, zone de santé des Kibois. Le bilan fait état d'un décès communautaire enregistré faute de médicaments essentiels. Notre invité, c'est le recteur de l'université Simo Kimbangu. Le professeur Blaise Mouya exhorte les Congolais et les Africains en général à s'approprier les combats de Simo Kimbangu, dont nous saluons la mémoire ce 6 avril 2023 à la faveur d'une ordonnance du président Félix Tshisekedi. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Mimi Kindou. Pour la première fois depuis l'indépendance de la RDC, les Congolais commémorent aujourd'hui, 6 avril 2023, la journée du combat mené par Simo Kimbangu et de la conscience africaine. Cette date est désormais une journée fériée au pays. Ainsi en a décidé le président Félix Tshisekedi à travers une ordonnance. Au Maniema, les kimbanguistes ont organisé une caravane sur les principales artères de la ville pour saluer l'événement. Reportage à Kindu de Florence Kizalunga.
Chants, danses et cris de joie ont caractérisé cette journée ici au Maniema. Partie de la tribune centrale de Kindu, la caravane a chuté à la paroisse Kisolokele où un culte est organisé pour toute la journée. Le révérend Kabali Amsini Risasi, inspecteur provincial et représentant ad intérim de l'église kimbanguiste, exprime ici sa joie.
D'abord, les kimbanguistes de la ville de Kindu et en général la province du Maniema. Nous sommes très contents à l'égard de son excellence M. Antoine Tshisekedi, président de la République, d'avoir signé une ordonnance qui honore le début du ministère des professions de banque depuis 1921 jusqu'à nos jours. Il fait de cela 102 ans. C'est pourquoi toute la population, tous les kimbanguistes de la ville se sont mobilisés et rendre hommage à son excellence pour lui remercier d'avoir posé cet acte à l'égard des Papas Mulimbangu et aussi à l'égard de tous les kimbanguistes en général de la province d'Imanya. Nous lui disons merci et grand merci.
Signalons que ce culte a connu la participation de membres du gouvernement provincial, de la mairie et plusieurs curiés. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
On en vient maintenant au chapitre santé. Au Nord Kivu, une dizaine de cas de diarrhée sont signalés depuis 2 semaines dans 2 aires de santé d'Entoto et de Langira. C'est respectivement dans les groupements de Walo Uroba et Walo Ayungu, territoire de Walikale. Un notable du terroir parle déjà d'un décès communautaire enregistré. Jean des Dieux Banyéné note que ces aires de santé n'ont pas de médicaments essentiels. Il l'a dit à Denise Lukeso.
En visite au centre de santé, je constate qu'il y a beaucoup de cas de diarrhée, dont un décès communautaire. Et donc, il y a aussi manque de prise en charge médicale par manque de médicaments. Nous faisons un appel pathétique aux humanitaires qui peuvent venir en aide. La population du groupement Walo à Uroba, en particulier l'aire de santé de Ntoto. Mais aussi, quand on arrive à Kilung, où j'ai visité, il y a aussi un problème, carence à médicaments, carence totale à médicaments. Le même problème de diarrhée, je l'ai aussi retrouvé au niveau de l'aire de santé de Langira. Et donc, c'est la contrée Walo à Uroba, Walo à Yungu, qui est menacée par la diarrhée. Merci beaucoup pour tous les humanitaires qui pensent venir en aide à la communauté des deux groupements précités. Merci.
J'ajoute que nous n'avons pas réussi à joindre les responsables de la zone de santé pour avoir leur version. En Ituri, pendant ces temps, plus de 130 cas de rougeole ont été enregistrés cette semaine dans l'aire de santé de Niania, située à environ 300 km au sud-ouest de la ville de Bounia. Parmi les causes de la propagation de la maladie, de nombreux parents résistent à faire vacciner leurs enfants. D'autres recourent plutôt à la médecine traditionnelle qu'ils estiment plus efficace. Le médecin chef de la zone de santé déplore la rupture des intrants médicaux. Docteur Joseph Oupema a été joint par Ezekiel Mouzalia.
ces cas-là sont les malades, les enfants qui arrivent dans notre institut sanitaire. Il y a beaucoup de paramètres. D'abord, il y a une rupture de stock des extras pendant au moins un mois, deux mois. À part ça, il y a aussi les parents qui résistent à faire vacciner les enfants. C'est-à-dire les enfants commencent leur calendrier vaccinal mais ne terminent pas. Beaucoup de gens qui arrivent, ils ont des caractères différents. Il y a ceux-là qui ne se donnent pas des activités de vaccination. Ils amènent les enfants dans les milieux inaccessibles. La population, c'est d'abord de faire vacciner les enfants. Celui qui aime son enfant doit le faire vacciner. Et puis, dès qu'il y a les signes, les éruptions cutanées, la fièvre, la toux, il faut que les parents puissent d'abord consulter les services sanitaires les plus proches au lieu de s'adonner dans les traitements traditionnels.
Et puis, au Norobangui, les infirmiers de la zone de santé de Gbadolité réclament maintenant le paiement de leurs salaires et primes de risque. Parmi la centaine d'infirmiers de Gbadolité en fonction, peu sont payés. Conséquence, ils vivent dans la précarité avec leurs dépendants. La présidente de leur syndicat plaide pour une solution urgente. Madame Pascaline Dingo est au micro de Paul-Richard Malengela.
Donc, comme vous savez très bien, nous tournons tout autour de l'argent, dans le sens que quand on travaille, on a besoin de quelque chose. Nous prestons, mais il n'y a pas tous les personnels qui ne reçoivent pas les primes, des risques, ni des salaires, et ce qui nous dérange. Nous cherchons à ce qu'on puisse donner à tout le monde quand même sa prime ou soit son salaire, ça sera intéressant. C'est ça notre souci. Nous sommes nombreux. Plus de 100, il y a peu seulement qui reçoivent les primes et les salaires. Nous vivons seulement par la grâce de Dieu, par des primes locales. Et cela, c'est en fonction de la fréquentation. Si cela s'élève, on a quelque chose de 50 000. Si c'est diminué, nous avons quelque chose de 20 000. Mais 20 000 francs, tout ça pour un responsable, c'est vraiment insuffisant. Bon, notre souhait est que le chef d'État puisse voir les problèmes des personnels de santé, que tout le monde qui preste ou qu'il vient au travail du 1er au 30 puisse recevoir sa prime ou soit ses salaires. Il y a des gens qui ont commencé le travail avant moi, 10 ans, 11 ans, 15 ans actuellement et ont rien. Et ça fait mal au cœur.
On enchaîne avec la province de la Tchopo où le vicaire général de l'archidiocèse de Kisangani, Mgr François Mwarabu, a posé hier mercredi la première pierre pour la construction d'un bâtiment moderne destiné au centre de santé Saint-Pierre-Waguenia. Les travaux sont cofinancés par la Caritas Développement et la Conférence épiscopale italienne. À Kisangani, c'est une correspondance de Jacques Moukonkole.
Jusque-là, le centre de santé Saint-Pierre fonctionnait dans l'ancien presbytère par manque d'infrastructures. Grâce au plaidoyer de Mgr l'archevêque Marcel Outembi auprès des bienfaiteurs, la conférence épiscopale italienne a mobilisé partiellement les fonds, a précisé le coordonnateur de la Caritas Développement, l'abbé Ferdinand Batobou.
Ce projet étant ainsi financé, nous nous tenons devant vous pour vous rassurer de l'implantation d'une structure sanitaire digne, moderne, viable et équipée qui demeurera un patrimoine propre au centre de santé Saint-Pierre-Waguenia.
Les riverains de l'heure de santé Saint-Pierre-Waguenia s'en réjouissent, car disent-ils, ils ne pourront plus effectuer de grandes distances pour atteindre une formation médicale.
Vraiment, nous sommes très contents de construire les centres de santé ici chez nous, parce que auparavant, on fréquentait la référence, l'hôpital général, comme les centres de santé tout proches, construits au sein de la paroisse Saint-Pierre-Waguenia, la population de Kisangani vont fréquenter les centres de santé Saint-Pierre.
Signalons que l'enveloppe globale et la durée des travaux n'ont pas été révélé. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Notre chapitre dans la province du Tanganyika, les activités de la cimenterie de Kabimba se sont arrêtées depuis quelques jours. Le député national John Banzalunda a déposé pour cela mardi dernier à Kinshasa une question orale avec débat au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe. L'élu de Kalemi voudrait savoir pourquoi cette cimenterie a été fermée. Il a été joint par Alain Rongomouchige.
J'ai décidé d'adresser une question orale avec débat au vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale au sujet de l'activité économique qui se passe au Tanganyika. principalement à Kabimba avec la société Great Lakes Cement qui a des difficultés de fonctionnement qui seraient à l'arrêt de suite d'une décision de Prince. Nous voulons comprendre pourquoi, quel est le motif légal de cet arrêt brutal et aussi la pression fiscale qui nuit essentiellement à cet important investissement qui emploie plusieurs centaines de nos compatriotes. Et donc, je veux que le vice-premier ministre, ministre de l'économie, vienne s'expliquer devant la représentation nationale, nous dire comment les intérêts de l'investisseur seront garantis, comment les intérêts de l'État seront protégés, comment les intérêts de la population de Kalemi seront préservés.
Partons maintenant pour le Sud Kivu où les habitants du territoire de Kalehe réclament la réhabilitation urgente des deux routes nationales RN2 et RN3. Ces tronçons se sont considérablement délabrés. Ce plaidoyer est mené par le président de la société civile locale. Delphin Bilindi appelle à l'intervention du gouvernement central. Il a été joint par Emmanuel Elamejo Kabili.
Calais, c'est le calvaire ces derniers temps, puisque la RN2 Bukavu-Goma, les tronçons Minova, Makelele, Mukwija, Nyamishonga, chez les Français, Nyabibwe, jusqu'à Luzira, là c'est catastrophique. Et si vous allez sur la RN3, les tronçons Miti, Bitale, Ulambika, Hombo, là on en parle. C'est pourquoi nous appelons le gouvernement central de commencer les travaux d'asphaltage des routes pour essayer de soulager la population de Calais. Voilà, nous sommes dans la période d'enrôlement des électeurs. Il y en a certaines entités où les populations ont difficile même d'accéder au centre d'enrôlement pour se procurer leur carte d'électeur. Il y a des écoliers qui ne sont pas en mesure même d'atteindre certaines écoles puisque le temps de la route n'est pas bon. Autre conséquence économique, une mesure de la farine de manioc qui coûtait 500 francs, aujourd'hui c'est 3000 francs. Une mesure d'haricots qui était de 2000 francs, aujourd'hui c'est maintenant 6000 francs. Il y a aussi un grand nombre de déplacés de guerre en provenance du Nord Kivu qui sont dans le territoire de Calais. Mais il n'y a pas même de passage pour les humanitaires venir en aide à cette catégorie de population.
Le directeur provincial de l'Office des routes Sud Kivu reconnaît cette situation. Anissé Kakese dit ne pas attendre les moyens financiers pour lesquels il a déjà transmis les devis. Il ajoute que tous les engins de l'Office des routes sont dans un état de vétusté. Sud Kivu, encore les chauffeurs des taxis, les conducteurs des agences de transport en commun menacent d'organiser une désobéissance fiscale pour contester la perception des taxes dans la ville et le territoire d'Uvira. Les chauffeurs des taxis Uvira-Bujumbura l'ont exprimé hier à Kilomoni après un incident survenu au poste de perception des taxes de la mairie. Ils se plaignent de la non-réhabilitation de toutes les routes de la ville et le territoire d'Uvira alors que beaucoup de taxes sont perçues tous les jours. Pour en parler, retrouvons à Uvira Fiston Gomamayabala.
Un chauffeur de taxi a refusé de payer la taxe auprès des taxataires de la mairie à Kilomoni 2. Il a qualifié cette taxe d'illégale perçue à Kilomoni ainsi qu'à Ruzuzi et à Kaala sur la route nationale numéro 5, alors que selon lui, aucun effort n'est fourni pour réparer les routes avec les taxes collectées. La police est intervenue pour tenter d'arrêter ce chauffeur qui a fui en traversant la frontière vers Burundi. La nouvelle société civile congolaise a été saisie de cette situation. Son coordonnateur André Biadounia inscrit cette préoccupation des transporteurs dans le contexte général de l'état des routes dans la ville et les territoires d'Uvira.
Presque tous les ponts sont cassés. Pour atteindre les ports de Kalundu, ça devient compliqué. Tous les marchandises qui sont chargées au niveau du deuxième port de Kalundu sont d'abord déchargées au niveau de Kalunda où il y a un pont qui s'était cassé et rechargées de l'autre côté parce que les marchandises doivent atteindre Bukavu. Notre inquiétude, c'est qu'il y aura un coût de surplus sur les produits au niveau du marché. Sur le plan sécuritaire, il y a déjà un cas de braquage à moins de 5 km de cet endroit là-bas. Nous sommes en train de craindre plusieurs cas de braquage sur la route nationale numéro 5 parce qu'il faut que les gens quittent les bus pour prendre notre bus.
À Luanga, sur la route entre Ouvir et Fizi, des grosses pierres ont glissé des collines vers la route tandis que dans la plaine de la Ruzizi, la route reste coupée après des sangs. D'Ouvir à Fistongo, Mamayabala, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Aux États-Unis, un parent d'élève a porté plainte contre son établissement pour exposition à la pornographie après l'étude de la statue de David. La polémique est telle que le proviseur de l'établissement a été contraint de démissionner après avoir reçu un ultimatum du conseil scolaire. Son prédécesseur estime qu'il y a eu un manquement grave puisque l'année passée, une note d'information relative à l'étude de cette œuvre avait été envoyée aux parents au préalable, ce qui n'a pas été fait cette année. Et puis une crise diplomatique qui dépasse les frontières. Le Kremlin a accusé hier de mensonge l'ex-premier ministre britannique qui affirme que le président russe Vladimir Poutine l'a menacé d'utiliser des missiles peu avant l'offensive en Ukraine. Boris Johnson raconte dans un document publié par BBC que le président russe l'a menacé. Dans ce documentaire en trois parties, l'ancien chef du gouvernement britannique raconte son très long et extraordinaire appel avec le président russe après sa visite à Kiev début février.
L'invité.
Notre invité, c'est le recteur de l'université Simo Kimbangu. Le professeur Blaise Mouya exhorte les Congolais et les Africains en général à s'approprier les combats menés par Simo Kimbangu, dont nous saluons la mémoire ce 6 avril 2023 à la faveur d'une ordonnance du président Félix Tshisekedi. Il s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour, professeur Blaise Mouya.
Bonjour, Blaise.
La journée du 6 avril est décrétée fériée en République démocratique du Congo. Quel est l'essence sociopolitique que vous donnez à cette reconnaissance de l'État congolais?
C'est une reconnaissance, comme vous le dites vous-même, tard. Mais c'est arrivé parce que on attendait depuis très longtemps, compte tenu du fait que Simo Kimbangu avait livré un combat d'une grande valeur, d'une haute portée sociopolitique, mais alors sur fond de la spiritualité. Et il est natif de la République démocratique du Congo, donc les autorités politico-administratives devaient avoir un œil regardant sur le combat de ce fils du terroir. Ce mérite revient aujourd'hui à Félix Antoine Tshisekedi, et donc nous pensons qu'il est aussi le combattant au même titre que Simon Kimbangu.
Que répondez-vous, messieurs les professeurs, à ceux qui pensent que l'officialisation de cette journée est l'aboutissement d'un combat des kimbanguistes?
Pas simplement le combat des kimbanguistes, certes que ceux qui ont porté la charge, ce sont des kimbanguistes. Parce que les kimbanguistes se reconnaissent directement en Simon Kimbangu, et qui en est d'ailleurs le fondateur. Mais c'est un combat de tout Congolais dans un premier temps, mais aussi de tout Africain, comme vous le voyez dans les titres. On a dit le combat des Kimbangu et de la conscience africaine. Ça veut dire que Kimbangu n'avait pas simplement lutté pour le Congolais, mais il a lutté à partir du Congolais pour tout le noir, tous les négros africains, et donc c'est un combat qui est vraiment historique pour tous les peuples noirs, car nous sommes au même titre que tous les peuples que Dieu a créés.
En quoi s'est résumé les combats de Kimbangu?
La libération de l'homme noir, de toutes les vicissitudes socio-politico-économiques.
Quel lien dressez-vous entre les combats de Simon Kimbangu et celui de Patrice Emery Lumumba?
Patrice Emery Lumumba avait déjà eu les instruments, les outils que Simon Kimbangu lui avait légués. Et donc, il avait un combat, il a pérennisé le combat de Simon Kimbangu. Vous savez, Simon Kimbangu a fait 30 ans d'emprisonnement, alors que Mandela, comme les gens le disent, n'avait fait que 27 ans. Et donc, le prisonnier des opinions, le plus grand prisonnier de l'Afrique, c'est Simon Kimbangu. Aujourd'hui, nous devons revoir l'histoire de notre pays, l'histoire africaine, corriger directement cet aspect des choses. Et donc, Lumumba avait pratiquement continué le combat de Simon Kimbangu pour l'indépendance, non seulement politique, mais aussi spirituelle, comme Simon Kimbangu avait commencé. Il faut qu'on se les dise. Le vrai combat ici, c'est le combat spirituel, le combat mental, le combat de mentalité. Et Simon Kimbangu avait déjà préparé le terrain pour que Lumumba, Patrice Emery viennent pérenniser et mouser. Et aujourd'hui, le même combat est continué également par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, que nous appelons Fatih Béton.
En marge de cette journée, quel est le message que vous lancez d'abord aux kimbanguistes en particulier, et puis à toute la population congolaise, voire africaine en général?
Prise de conscience, refaire notre lecture du Congo et de l'Afrique tout entière, Nous devons réécrire notre histoire avec nos propres lunettes parce que l'histoire de l'Afrique et du Congo a été biaisée par ceux qui étaient venus nous coloniser. Et ils nous ont fait croire, selon leur vision, ce que nous devions faire, mais hélas, on a buté à beaucoup de difficultés jusqu'à ce jour. Maintenant, recommençons à zéro, comme Papa Simon Kimankangan le dit. Réapproprions-nous notre histoire du Congo et de l'Afrique. Et nous pensons que nous allons réussir. C'est le décollage d'ailleurs.
Qu'attendez-vous, messieurs les professeurs, par la réappropriation de notre histoire?
La prise de conscience de ce que nous sommes. Nos ressources ne doivent nous appartenir. Ne donnons plus l'occasion aux étrangers de venir s'approprier par des paroles mielleuses pour qu'on puisse nous opposer entre nous et que nous ne comprenions rien. Nous devons nous assumer aujourd'hui et quand il faut dire non, le dire à haute voix et aller de l'avant, peaufiner des stratégies pour le développement intégral des Congolais, de l'homme africain, de l'homme noir tout court.
Professeur Blaise Mouya, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
C'est moi. Merci beaucoup pour la disponibilité.
C'était donc l'invité de Radio Okapi, le recteur de l'université Simon Kimbangu, le professeur Blaise Mouya, était interviewé ici à Kinshasa par Blaise Ndongala Mayanda. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à Pelé Kipela Mondo qui m'a accompagné.